Messieurs, dames, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous de la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres, le chef de l'État a lancé jeudi la première production de maïs du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Cette production intervient 7 mois depuis le lancement des travaux. La Fédération des entreprises du Congo, du territoire de Ouattara et le gouvernorat de la province orientale se sont accordés pour la réhabilitation de 600 kilomètres de route dans le Haut-Ouélé. La cagnotte allouée à ces travaux est de plus $1 million. Et nous avons parlé également cette semaine du nouveau rapport sur la transparence dans le secteur minier congolais, rapport publié par 3 réseaux d'organisations congolaises en partenariat avec le Centre Carter. L'étude intitulée « Qui cherche ne trouve pas » souligne que malgré les efforts pour accroître la transparence du secteur minier de la RDC, ces dernières années, beaucoup reste à faire pour s'assurer que l'information clé soit rendue disponible au public. Nous allons vous proposer dans cette émission l'intégralité du reportage sur le manque du courant électrique et les plaintes des petites et moyennes entreprises qui en dépendent dans les communes de Bumbu, Silembao et Ngiringiri. Notre invité, c'est Monsieur Blanchard Malutanga. Il est directeur de crédit chez e-Finance. C'est une nouvelle institution de microfinance que nous allons ensemble découvrir. Blanchard, bonjour et bienvenue à notre studio.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Panorama économique, le dossier.
Le résumé de la semaine dans ce dossier de la semaine, et ce sera un numéro assez spécial, nous allons passer en revue les grandes actus de la semaine et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons découvrir, comme je venais de vous l'annoncer, e-Finance, c'est une nouvelle institution de microfinance ici à Kinshasa et qui a ambition de s'étendre également dans le province. Premier dossier de la semaine, cette première production de maïs lancée jeudi par le chef de l'État à Bukangalonzo.
Ceci intervient après 7 mois depuis que les travaux ont été lancés. Selon le ministre de l'Agriculture que vous allez entendre, cette première production va servir à au moins 5000 personnes. On écoute le ministre Kabomou.
La production attendue est d'environ 4 tonnes par hectare, soit 20 000 tonnes pour les 5 000 hectares. Pour la deuxième phase, une autre étendue de 2500 hectares vient d'être plantée. Chaque année, au moins 10 000 hectares seront plantés pour atteindre 50 000 hectares de maïs au bout de 5 ans. Pour la deuxième phase, il est prévu, primo, la plantation de légumes sur 1000 hectares, avec une production journalière estimée à 500 tonnes de légumes. Tertio, la production de poules, de chairs et de la viande d'épargne. Cette phase va être officiellement lancée au mois de mai de cette année. La cérémonie d'aujourd'hui est l'expression de l'engagement du gouvernement à booster l'économie congolaise par la modernisation et l'amélioration du secteur agricole congolais par de grands investissements dont la qualité permettra non seulement de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, mais aussi d'augmenter la compétitivité des produits agricoles made in Congo par rapport au reste du monde. Nous sommes convaincus que ce type d'agriculture va propulser notre pays au rang des géants dans la production agroalimentaire. Le gouvernement s'emploie à finaliser une stratégie innovante d'appui aux paysans. Cette stratégie porte sur la sécurité foncière, l'accès au crédit, l'accès aux intrants de qualité, l'assurance agricole, la commercialisation des produits des fermiers et une mécanisation agricole appropriée. Bukangalonzo, jadis une bourse perdue dans le Kwango, aujourd'hui Bukangalonzo est en passe de devenir un des greniers de la République démocratique du Congo.
Bukangalonzo en voie de devenir un des greniers de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre Kabwe Mweu, ministre de l'Agriculture. Deuxième dossier de la semaine. semaine qui cherche ne trouve pas, c'est le nouveau rapport sur la transparence dans le secteur minier congolais publié par trois réseaux d'organisations congolaises en partenariat avec le Centre Carter. Cette étude a analysé 17 projets miniers à travers la RDC et souligne que malgré les efforts pour accroître la transparence du secteur minier en RDC ces dernières années, beaucoup reste à faire pour s'assurer que l'information clé soit rendue disponible au public. Et c'est surtout par rapport à l'impact environnemental auprès de communautés locales, comme nous dit François Kadima.
Disons d'abord que la recherche a été conduite par la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans les secteurs miniers, la Maison des Mines de Kivu et les cadres des concertations sur les ressources naturelles d'Ituri. Ce rapport montre qu'il y a eu au moins 62 contrats qui n'ont pas été publiés par le ministère des Mines en violation avec un décret du gouvernement congolais exigeant leur publication dans les 60 jours suivant la signature. Les chercheurs soulignent que pour plus de 3/4 des entreprises étudiées, il n'y avait pas d'informations sur les impacts environnementaux disponibles au niveau local, malgré l'obligation légale de déposer les résumés de l'étude d'impact environnemental auprès de communautés locales. Les organisations de la société civile se disent, selon ce rapport, faire face à des obstacles de taille pour obtenir des informations sur les impacts environnementaux et les plans d'atténuation, les projets de développement social et communautaire et des informations de base sur la propriété de principaux projets miniers. De manière générale, les états financiers des entreprises ne sont pas disponibles. L'ITIE n'exige que la publication de paiements aux entités étatiques. Elle ne couvre pas les détails relatifs aux investissements et aux bénéfices qui sont pourtant cruciaux pour mettre en perspective les recettes fiscales. Et comme recommandation, ces ONG et les centres Carter demandent aux autorités congolaises, entre autres, le renforcement du code minier pour qu'il exige clairement la publication des contrats miniers. Et aux entreprises minières, le rapport recommande la distribution des résumés des études d'impact environnemental aux autorités appropriées et aux communautés locales comme exige l'article 451 du règlement minier.
Programme économique, c'est la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Province orientale à présent, le gouvernement provincial a signé dimanche dernier à Bunia un protocole d'accord avec la Fédération des entreprises du Congo du territoire de Ouattara pour la réhabilitation et la maintenance de 600 km de route dans le district du Haut-Ouélé.
Le tout pour un coût total de près $1,600,000 américains à partager entre les deux parties du contrat. Sadiki Aboubakar nous dit plus sur ce contrat.
Ce protocole d'accord porte sur un montant global de $1,335,850 américains pour les travaux de réhabilitation de l'axe routier Dungu-Urungu-Isiro long des 131 km. Le deuxième volet coûte $226,800 américains pour l'entretien d'un réseau de 470 km toujours dans le Haut-Ouélé. Jean-Bamanissa Saïdi, gouverneur de la province orientale.
Les estimations de réhabilitation de cette route ont été à 2,3 millions et la FEC Ouatcha a accepté de prendre en charge une partie et le gouvernement provincial prendra en charge $1,300,000 pour l'exécution de ces routes. Ensuite, nous avons confié aussi l'entretien de cet espace, donc d'à partir de Ouatcha jusqu'à Dungu, Faradje, Nyangara, Rungu, Isiro, toujours à la FEC et le contrat a été signé ce matin pour une concession, ça veut dire ils réhabilitent et ils entretiennent.
Pour Cyril Ekolomoke, président de la FEC Territoire de Ouattara, les travaux seront exécutés par Trade Business Office, une entreprise de la FEC locale. Selon les protocoles, les travaux commencent après 45 jours.
Le gouvernement provincial va bientôt commencer à nous envoyer le premier lot parce que dans le protocole d'accord, nous avons encore 45 jours pour nous préparer des parts et d'autres. La FEC, nous allons déployer les machines dans les 45 jours et le carburant ainsi que d'autres apports dans nos attributions. Quant au gouvernement provincial, il pourra également commencer à financer sa part dans le délai de 45 jours.
Le gouverneur salue cette initiative de la FEC Ouattara et appelle les autres antennes de la FEC en province orientale à emboîter les pas de Ouattara. Les recettes des péages seront totalement affectées au financement de ces travaux, souligne l'article 6 du protocole. Enfin, les travaux de réhabilitation dureront 6 mois et la maintenance 4 ans. Pounia, Sadiq Aboubakar, Radio Okapi.
De Bounia, retournons à Kinshasa où ils sont près de 700 ces ex-agents Massafco qui attendent depuis plus de 10 ans le paiement de leur indemnité de sortie.
Cette affaire remonte à 2002 suite à un licenciement dit abusif. L'ex-premier ministre français Dominique de Villepin et Jean-François Prévost, aussi ministre français, tous deux avocats de ces ex-travailleurs, ont invité cette semaine le gouvernement congolais à exécuter la décision de la Cour suprême de justice. Celle-ci exige à la société Massafco de payer les 24 millions de dollars américains d'indemnité à ses ex-travailleurs, montant qui du reste n'a jamais été versé. Le président de l'association des ex-travailleurs de la Massafco, Jean-Marie Lokoto, s'exprime au micro de Michel Kifinangoy.
L'entêtement de Massafco, c'est quelque chose qui est en train de chercher à humilier la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que depuis 2001 que Massafco nous a licenciés abusivement, nous avons obtenu toutes les décisions en impliquant toutes les institutions, notamment le président de la République, le gouvernement de la République, le parlement de la République et enfin, dernièrement, la Cour suprême de justice. Et ça fait plus d'une année, mais jusqu'à aujourd'hui, le décret du Premier ministre congolais n'est toujours pas exécuté en faveur des paiements des travailleurs massacrés.
Et qu'est-ce qui explique que ce décret ne soit pas exécuté? C'est quoi le problème concrètement?
Oui, tout ce que je peux vous dire en toute sincérité, le dossier Massafco est largement et suffisamment politisé. Pourquoi? Parce que vous trouvez le gens, il y a Massafco qui a des avocats, qui sont au niveau, au plus haut niveau de l'État congolais, qui usent le trafic d'influence, et au-delà de ça, ils ne voyaient pas les dégâts que cette l'État a causé aux 680 travailleurs, qu'on arrive à faire 13 ans, 14 ans, sans pour autant que cela soit exécuté. C'est une honte, monsieur le journaliste.
Nous n'avons pas réussi à obtenir la réaction de la Massafco accusée, tandis qu'au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, on renseigne que le patron de la Massafco, invité la semaine dernière pour trouver une solution à cette situation, dont l'amiable n'a pas répondu à l'invitation. Et le conseiller du ministre précise qu'une autre invitation lui sera envoyée. Sinon, le ministère envisagera une exécution forcée du décret du Premier ministre.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Panorama économique sur Radio Capi, je vous le disais dans le titre, nous allons découvrir à présent une nouvelle institution de microfinance, c'est e-finance. Son directeur de crédit est avec nous, c'est notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Blanchard. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Daniel.
Pourquoi e-finance et c'est quoi e-finance?
Bien, comme vous venez de le dire dans votre introduction, e-finance c'est une nouvelle institution de microfinance. Qui est
agréé par la Banque Centrale du Congo.
Et bien sûr, agréé par la Banque Centrale du Congo. C'est depuis le mois de juillet 2014 qu'iFinance a reçu l'autorisation d'opérer en République démocratique du Congo. Et iFinance, comme je l'ai dit, c'est une institution qui est pratiquement spécialisée dans l'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises. Et iFinance offre de produits les services financiers les plus accessibles, flexibles et même transparents à travers sa grille, à travers nos services.
Ça veut dire ?
Nous avons prôné la flexibilité et surtout la transparence pour permettre aux clients de s'approprier de son institution qui est e-finance, puisque nous disons si nous opérons pour les clients et par contre nous ne devons pas être aussi complexes dans nos activités. En rendant tout tupé l'accessibilité beaucoup plus facile à nos clients, certainement, lorsqu'on parlera de produits, je pourrais peut-être un tout petit peu parler de nos produits qui sont aussi simples, ce qui d'ailleurs caractérise notre flexibilité dans ce sens-là. Et aussi la transparence, puisque nous voulons bien que les clients qui viennent chez nous puissent avoir connaissance des différents coûts, surtout pour les crédits, et également savoir qu'est-ce qu'ils pourront bénéficier lorsqu'ils épargnent chez nous. Nous
avons les et puisque vous parlez de l'accompagnement, vous voulez, bon, disons, parlez-nous un peu, quel service, parce que vous venez de parler de crédit, c'est ce qui intéresse beaucoup de petites et moyennes entreprises. On sait qu'en RDC, il est difficile pour les petites et moyennes entreprises d'accéder à des financements dans le système bancaire ordinaire. Peut-être dans une institution comme la vôtre, elles pourront, les petites et moyennes entreprises, avoir accès à ce qu'elles cherchent.
Et bien sûr, chez nous, le micro, petites et moyennes entreprises, pourront bien bénéficier de financement, puisque là, c'est parmi nos produits, nous avons les crédits que nous accordons aux petites et moyennes entreprises.
Avec beaucoup de conditionnalités.
Pas du tout, je ne parlerai pas de conditionnalités, puisque si il faut avoir un crédit chez nous, pour nous, nous disons, il suffit d'avoir une activité.
Il faut hypothéquer son titre immobilier pour avoir un financement.
Pas nécessairement. Déjà, si nous allons dans les détails du produit de e-finance, vous allez comprendre que nos produits ou les financements commencent à partir de 350 $. Et nous ne pouvons pas demander à quelqu'un qui voudrait avoir un tel financement d'hypothéquer sa maison. Donc l'hypothèque pour nous, ce n'est pas une condition pour accéder au financement.
Alors qu'est-ce que vous demandez à celui qui se présente, à une PME qui se présente, vous lui demandez quoi concrètement?
Donc à une PME qui se présente, pour nous, la première des choses que nous demandons, c'est être capable de rembourser. Donc la capacité de remboursement, c'est l'élément premier pour nous. Les garanties ne sont pas une condition, puisque nous avons, comme je l'ai dit, nous avons des produits flexibles, et la flexibilité c'est aussi au niveau des types de garanties. Nous prenons tous les biens que les clients peuvent posséder comme biens et qui pourraient servir comme des garanties. Et nous avons même des crédits que nous octroyons sans aucune garantie matérielle.
Alors vous êtes exceptionnel à l'e-finance.
Eh bien justement, c'est pourquoi nous disons que nous sommes une institution qui est flexible, qui est transparente et qui voudrait également qui prendre en compte le besoin des clients et pour leur permettre de se retrouver et surtout de financer leurs activités pour aller un peu plus loin.
Si nous vous avions invité dans cette émission rétrospective, c'est par rapport à cette interview que nous avons eue avec vous au début de la semaine. Les internautes et les auditeurs ont appelé, ils voulaient en savoir un peu plus. Il y en a qui ont demandé, il y en a qui ont des projets et ils voulaient venir chez e-finance, avoir un financement pour réaliser leur projet. C'est possible.
Déjà, comme on l'a dit dernièrement, e-finance est très ouvert, nous sommes flexibles. Donc, si quelqu'un a un projet, il suffit de nous approcher et venir dans nos bureaux, nous avons la possibilité de voir comment est-ce que nous pouvons accompagner cette personne. Bien entendu, nous ne fermons pas des portes à ceux qui ont des projets et évidemment, ceux qui ont déjà des activités peuvent nous approcher et ils pourront bien bénéficier d'un financement.
Vous avez dit, vous avez reçu l'agrément de la Banque Centrale du Congo depuis le mois de juillet 2014. Oui. Et vous avez déjà commencé vos activités aujourd'hui à près de 5 mois. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de clients vous avez et votre portefeuille de crédit, à combien vous les chiffrez?
Oui, nous avons eu notre agrément au mois de juillet, comme je l'ai dit, mais nous étions opérationnels depuis le 19 septembre dernier, donc 2014. Et depuis le 19 septembre, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà pris 2000 clients en crédit, mais comme je l'ai dit aussi, nous sommes une institution financière, nous ne proposons pas seulement les crédits, nous avons également les services bancaires à travers les services de l'épargne, où nous avons déjà pris des 4000 compte opérationnel chez nous. Donc, avec ça, ça nous a permis, comprendre que c'est une moyenne beaucoup plus intéressante après 4 mois d'opération d'avoir près de 1000 clients, donc c'est une moyenne de 250 financements par mois, et nous avons près de 4000 compte opérationnel. S'il faut parler en termes de volume de crédit, nous sommes déjà au-delà des 4 millions de dollars de crédits octroyés. Donc nous accompagnons les micro, petites et moyennes entreprises chez e-finance.
On dit que les crédits en République démocratique du Congo sont chers, on accorde les crédits à des taux d'intérêt très élevés. Est-ce qu'il en sera ainsi avec vous? Quel taux vous appliquez?
Donc déjà, si vous comprenez avec ces succès après 5 mois d'opération, si nous sommes arrivés à avoir près des milliers de clients et également plus de 4000 comptes opérationnels chez nous, c'est que les clients ont compris que les prix ou les tarifs appliqués par e-finance est accessible et abordable. Donc nous avons un prix qui permet à nos clients de se retrouver et de prendre le financement et de les rembourser sans problème. Donc, de ce point de vue, ceux qui nous approchent savent déjà qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus, et même ceux qui vont nous approcher à travers, après avoir suivi cette intervention, vont se rendre compte que chez e-finance, les prix sont très très bas. Déjà, je peux vous donner un exemple. Pour bénéficier d'un crédit chez e-finance, vous n'avez pas à supporter de frais de dossier.
Si
vous
ça veut dire quoi?
Ça veut dire quand vous venez, vous ne supportez rien, vous faites votre demande, et la demande est prise en compte, analysée par nos chargés de clientèle qui sont formés pour ça, et ils vont mettre en place les crédits. Lorsqu'on met en place les crédits, vous n'avez aucun frais à supporter.
Je suis propriétaire d'un atelier de menuiserie. J'ai besoin d'un petit financement pour élargir mes activités. Je viens chez e-finance, je n'amène aucun document, et puis voilà, je fais ma demande et tout se passe bien.
Donc il faut déjà comprendre, e-finance évolue dans les secteurs formels comme informels. Donc nous finançons les activités qui sont dans le formel et dans le formel. Dans le formel, puisque nous devons apporter de l'appui à ceux qui sont dans le formel pour rejoindre les secteurs formels, et ceux qui sont dans le formel et également
il
pour continuer.
Donc,
dans ce sens-là, nous nous disons, si vous voulez avoir un crédit chez e-finance, ne vous inquiétez pas d'abord sur le document à ramener. Venez et nous allons discuter. Nous savons comment orienter nos clients pour bénéficier d'un crédit. Et bien entendu, nous n'encourageons pas les gens à ne pas se formaliser. Bien sûr, nous les accompagnons.
Monsieur Blanchard, quelle garantie vous donnez à ceux-là qui vous écoutent maintenant et quelle confiance ils peuvent placer en vous? Est-ce que vous n'êtes pas comme une sorte de ces bingos qui a attiré les gens et puis a englouti l'argent et a disparu? Quelle garantie vous donnez à ceux qui vous écoutent maintenant? Quelle confiance ils peuvent, jusqu'à quel niveau de confiance ils peuvent se fier à vous, à e-finance?
Bon, je pense que la confiance pourrait même venir de par nos actionnaires, parce que s'il faut revenir au
départ... Et sur qui ces actionnaires?
E-finance, c'est une institution qui bénéficie de l'appui des actionnaires institutionnels comme Triodos Bank, qui est une très grande institution internationale, qui est reconnue sur le plan international dans l'accompagnement des institutions de microfinance et même des banques commerciales. Et nous avons également Incofin, qui est une institution aussi reconnue, et nous avons également Responsabilité. Donc ce sont des grandes institutions qui ne pourront pas accepter d'accompagner une institution s'ils savent que cette institution ne pourra pas aller plus loin. Et déjà là, avec cet apport, ça nous permet de bien tranquilliser, de dire à nos
ceux
clients...
Ceux qui sont en train d'épargner chez vous, vous avez parlé de 4000 comptes d'épargne qui sont déjà disponibles chez e-finance.
Effectivement.
Ces avoirs sont bien protégés.
Les avoirs sont très bien protégés.
Et ils sont rémunérés pendant qu'ils sont chez vous.
Bien entendu, c'est là aussi l'un des avantages que e-finance offre à ses clients, je pourrais parler.
Nous revenons à vous, monsieur Blanchard, pour terminer cette émission. Le temps pour nous de prendre le dernier élément de cette rétrospective de la semaine.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine nous garde à Kinshasa, précisément dans la commune de Bumbu, qui dans la quasi-totalité et une grande partie de communes de Ngiringiri et Selimbao vivent dans le noir depuis plus de 6 mois. Ce manque d'électricité persistant n'a pas manqué de répercussions négatives sur les petites et moyennes entreprises qui en dépendent. Le couturier, les menuisiers et surtout les meuniers l'ont dit à Daniel Tamizoni et suivez ce reportage.
Il était 8h30 du matin lorsque nous sommes arrivés dans les installations du pressing situé sur l'avenue Kisselele à Bumbu. Les travailleurs sont dans un profond sommeil. Le courant électrique est parti depuis 5h.
Bon, situation courant, ça passe mingi pour tous les niokoma et koniokoma. Lelo courant a ekoma tantôt, beaucoup qui comme on a eu, et y est 1h, ou bien 2h, ou bien 23h, ou bien et y est. Soit, koyan a eu ce qui, koyan tantôt, beaucoup qui nous kaba, ba sala, ba kata, ba courant, bouyoka, ba oubo kansi, ba mbongo, ba pesi, ba mbongo, ba zon selbino, ba délesté de, comme on a blog, mongo ya kop, quoi, net, biso, tout ça, bon, pressing, tous les niokoma. Bata l'état est pas ébazali, te t'en foutre banda quoi batu. Moussa les autres moi malam ou te pour courir ça te. Loyen à minuit ou année tout ça bon, n'a quoi batu te foutre $70.
Non loin de là, un atelier de couture qui fermait à 21h ferme actuellement plus tôt, faute de courant.
Bon, tout le monde est en train de se faire. Comme je suis exacté, je voudrais dire la raquette de la manifestation. Tonga na makolo, mulile koti to kangi msala tandise ba kiyatu baza
hotel. Musala erno.
Ming ni so kure zano to suka ba 20h à 21h, mais mikolo to suka ba 19h. Ba 17h ba ko so na pamba pamba kiyem ta pesimbongo na ipenza. Tare ti mama o ya ki banda lobby, lobby azwa ki te pona ni mulili. Lele so ye tongo tongo supo ayar ki pega ila mana ala tongo na matanga.
Dans les salles de jeux pour enfants et dans les menuiseries, on tente de pallier la situation avec des groupes électrogènes, mais les coûts d'exploitation sont plus élevés et ne favorisent pas une bonne rentabilité.
Toujours des gars dans moi, un groupe amiqué, amiqué, toujours ça là. Mais ouais, ça d'ailleurs manque à gagner parce que SND a zoé la bison à 25 parce que ça doit travailler, mais on foutait toujours courant.
C'est-à-dire, Moutou, quand tu as le bayani à 2000 francs, ce que ça les groupes.
Tarif est mati, Moutou, ou on a travaillé dans la perte parce que hier, on a la devine, et Moussousou, et on a la machine privée mati pour l'essence.
C'est le plus grand chômage pour les machinistes de moulins du marché de Selimbao. Leurs clientes ont carrément pris d'autres destinations. Les dégâts sont encore plus importants dans les chambres froides et les propriétaires de ces petites et moyennes entreprises évoque l'escroquerie de la part de la SNEL.
La SNEL a escroqué Penda, population congolaise. Courant, il commence à 1h du matin, à 5h et 4h. C'est pas pendant ce temps-là, tout ça censé qu'on l'a là. Surtout comme il veut fin du mois, à le moment, on va tenir moi courant la journée, peut-être pendant 2h du temps. Après, 4h pour là-bas, on va facturer la banque. Donc, maintenant, on est comme une étoile provocation et puis escroquerie. Donc, vous avez besoin de courant, vous avez besoin de escroquer Penda peu plus. L'État a Penda, on va disposer vis-à-vis la société Naïwan Électricité.
D'autres en appellent à la concurrence pour casser la situation de monopole détenue par la Société Nationale d'Électricité.
Voilà, c'était là le reportage de la semaine consacrée à ce manque de courant électrique criant dans certains coins de Kinshasa. Et nous allons prendre le dernier tournant de panorama économique pour chuter en beauté avec notre invité Blanchard. Nous revenons à vous pour terminer cette émission. E-Finance, vous avez parlé de 4000 comptes d'épargne que vous avez et en 4-5 mois, vous avez déjà 1000 clients et avec un portefeuille que vous avez estimé à 4 millions de dollars américains, c'est quand même beaucoup en si peu de temps.
Oui, ça peut paraître beaucoup, mais nous-mêmes, nous nous disons par rapport aux besoins que nous pouvons déjà voir sur le marché, c'est encore rien, puisque il y a encore plusieurs micro, petites et moyennes
entreprises. Selon vos études sur le terrain, le besoin en financement pour les petites et moyennes entreprises peut être à combien?
Bon, le besoin est énorme.
Énorme,
je peux l'établir en des milliers et des milliers de dollars, malgré plusieurs institutions financières, mais les besoins sont encore là. Et si on prend juste les dernières statistiques que nous avons eu à voir, nous avons pris des millions de micro, petites et moyennes entreprises au Congo. Donc, et si on, par contre, on fait la somme du nombre des clients dans les différentes institutions, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux. Donc,
mais là, vous parlez là seulement de Kinshasa, parce que vous êtes là, jusque-là, à Kinshasa. Vous avez combien de représentations, de combien de bureaux à Kinshasa pour le moment?
Donc, actuellement, nous avons deux agences qui sont déjà, une qui est opérationnelle et une autre qui sera opérationnelle dans une semaine. Et nous envisageons en avoir beaucoup à Kinshasa d'ici la fin de cette année. Mais nous ne voulons pas également nous arrêter à Kinshasa parce que déjà
l'année
prochaine...
L'économie du pays, ce n'est pas seulement à Kinshasa.
Effectivement. Donc l'année prochaine, nous envisageons déjà commencer notre expansion dans les provinces.
À Kinshasa, où est-ce qu'on peut vous avoir? C'est quoi votre adresse à Kinshasa?
Donc à Kinshasa, nous avons notre première agence opérationnelle qui se situe pratiquement à quelques mètres de l'entrée principale du marché Gambela. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, vous prenez l'avenue Victoire, croisement avenue Victoire et l'avenue Gambela. Le rond-point Gambela, vous prolongez jusqu'à l'entrée principale du marché. C'est là où nous avons notre première agence. Et notre deuxième agence, qui sera opérationnelle dans deux semaines, est située au croisement des avenues Kassavubu et l'avenue Roi Kading, s'il vous plaît. C'est là où nous aurons notre deuxième agence.
Merci beaucoup, monsieur Blanchard. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Et vous, chers auditeurs, vous aviez écrit, vous aviez demandé des renseignements et nous vous avons fait venir la personne indiquée pour répondre à vos préoccupations. Merci. Je pense que tout le monde est servi parce que l'économie sur Radio Capi, c'est aussi le service que nous vous rendons. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Je pense que ça ne s'arrête pas là. Toutes les fois que nous aurons besoin de vous, toutes les fois que les auditeurs auront besoin de vous, vous viendrez répondre à leurs préoccupations.
Bien sûr, nous sommes disponibles pour apporter l'information et nous vous remercions également pour nous avoir donné cette opportunité de parler des e-finances et évidemment de satisfaire nos clients qui voudraient bien savoir, ou les clients potentiels qui voudraient bien savoir ce que nous faisons.
Merci, chers auditeurs, pour votre temps nous accorder. Ainsi s'achève Panorama économique que je vous conviens à retrouver sur www.radioocapi.net toute la semaine. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.